Le Chili sous Allende, quatrième volet. Ricardo Parvex, à l'époque militant du MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire chilienne.
Octobre 1972, c'est l'épreuve de force, sans doute la plus grande épreuve de force de l'Unité populaire, à l'exception évidemment du coup d'État.
François Coustal, chercheur en sciences politiques.
Elle prend la forme, cette épreuve de force, d'une grève du patronal, d'une grève de la bourgeoisie. Il s'agit pour la droite et le patronat de paralyser l'économie et l'ensemble des activités économiques et sociales, et pour déconsidérer le gouvernement d'Unité populaire, de frapper les couches populaires, en les privant par exemple de nourriture, d'approvisionnement et de soins médicaux. Le 11 octobre, c'est le début d'une grève illimitée des transporteurs routiers. Cette initiative est immédiatement suivie par des appels analogues des professions libérales, qui concernent à la fois les commerçants, les médecins, les architectes, les avocats, les employés de banque, les propriétaires des transports en commun. Et dans certaines entreprises de production industrielle, les patrons déclarent le lock-out et arrêtent l'activité. La riposte du camp populaire va être double. D'abord, en s'appuyant sur les secteurs légalistes de l'appareil d'État, le gouvernement de l'Unité populaire va procéder à la réquisition de certaines activités. Mais surtout, l'essentiel de la riposte va venir de la mobilisation populaire dans les quartiers et dans les entreprises. Dès le 15 octobre, des collectifs de travailleurs occupent certaines entreprises, reprennent la production et se dotent de nouvelles formes d'organisation qui vont s'appeler les cordons industriels. Les cordons industriels, c'est des espèces d'assemblées générales qui regroupent les délégués des entreprises d'une même zone industrielle, puis ils s'élargissent à d'autres organisations de la représentation populaire, comme les juntes, c'est-à-dire les associations de voisins, les juntes d'approvisionnement et les prix, les centres des maires, les volontaires de santé, etc. Et pour assurer le maintien des activités de production, le ravitaillement, le système de santé, les cordons industriels se coordonnent au niveau supérieur, c'est-à-dire de la localité ou d'un regroupement de localités, et ces nouvelles structures prennent le nom de commandos au sens de commandement, de commandos communaux. Cette expérience, donc la riposte populaire à la grève de la bourgeoisie, va considérablement modifier les mentalités et, pour tout dire, accélérer la radicalisation et la conscience politique des travailleurs chiliens. On peut donner un exemple, c'est une interview que donne une habitante du campement, c'est-à-dire en fait du bidonville Nueva Habana, c'est-à-dire la Nouvelle Havane, qui dit « Nous connaissons maintenant la force du patron, mais nous savons aussi que nous sommes forts. Maintenant, nous ne luttons pas seulement pour que les riches augmentent nos salaires, nous savons que nos droits s'étendent depuis le droit d'occuper l'usine à celui de la lui prendre et jusqu'à celui de la faire produire et de diriger nous-mêmes. C'est là qu'est notre force. » Et puis ce mot d'ordre qui sera celui de la gauche chilienne, souviens-toi d'octobre. La grève patronale va en fait s'achever face à cette riposte populaire le 6 novembre.
À partir de la deuxième année, c'est la formation ce qu'on peut appeler des institutions populaires de base.
Alain Jox, chercheur en géopolitique, spécialiste du Chili.
C'est-à-dire les cordons industriels, les juntes de voisinage pour le ravitaillement, les juntas de abastecimiento y precios qui viennent des grèves patronales d'ailleurs. Qui sont les sous-produits des grèves patronales qui touchent le petit commerce de ravitaillement ou le grand commerce de ravitaillement, les transports et tout ça, et qui suscitent des créations d'organes populaires de base, y compris les cordons industriels qui sont des administrations des zones industrielles, par des collectifs ouvriers qui prennent à la fois les grandes et les petites entreprises, etc., sur des quartiers assez longs. Ça s'appelle cordon parce qu'en général, c'est sur les routes qui s'éloignent. Et donc, ce qui se crée, c'est une nouvelle institutionnalité. Ce sont des institutions révolutionnaires, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qui sont formées par des mouvements de base, et dans lesquels, d'ailleurs, la démocratie chrétienne ouvrière est impliquée, c'est-à-dire que les ouvriers démocrates chrétiens se rallient à ces institutions locales. D'abord parce que c'est celles qui organisent la survie pratique dans la pénurie organisée, les grèves de médecins, tout ce qui. L'offensive de la droite est très méchante, mais elle est très efficace aussi, parce que c'est en quelque sorte la bourgeoisie utile qui se met en grève. Les patrons, comme directeurs d'usine, se mettent en grève. Bon, alors, c'est les ouvriers qui prennent le pouvoir. Ah ben, ils avaient pensé que ça allait se passer comme ça. Ça les rend de plus en plus furieux. Bon, les médecins se mettent en grève parce qu'ils sont contre ce qui se passe, donc avec une certaine méchanceté, ils refusent de soigner le peuple, quoi.
Au moment de la grève patronale d'octobre, la plupart des médecins et des infirmières qualifiés se sont mis en grève.
Extrait du livre d'Alain Jox, Le Chili sous Allende, paru aux éditions Gallimard en septembre 1974.
L'équipe de l'hôpital San Borja, un des seuls hôpitaux où la gauche était assez importante, a suscité la création d'un comité de défense de la santé du peuple. Ce comité groupait des représentants des centres de mer, des juntes de voisins et des volontaires de la santé. Étant donné la réduction extrême du personnel hospitalier, ce sont les volontaires fournis par les communautés qui se chargeaient de la surveillance des locaux, du travail administratif et de l'entretien pour laisser l'intégralité du personnel de service de l'hôpital travailler avec les médecins de gauche. L'organisation a été conçue dès le départ comme devant assurer un service normal et ne refuser aucune demande de soins et de consultations. Elle s'appuyait sur les infirmiers et infirmières, les aides-soignants et les étudiants en médecine. Dans chaque consultation de quartier, les étudiants expliquaient que la grève de la droite empêchait les soins et que c'était uniquement les médecins patriotes qui travaillaient.
Alors, il se passe que les hôpitaux se mettent en contre-grève et que les hôpitaux fonctionnent sans médecins, avec des internes et les infirmières font le boulot des internes, et les filles de salle, on s'aperçoit qu'elles savent faire les piqûres, y compris les piqûres intraveineuses, etc. Et donc il y a toute cette déqualification soudaine de la super qualification des classes moyennes, supérieures ou moyennes, et qui définit un champ de lutte de classe qui met en cause vraiment des identités de classe, quoi. Moi, j'ai vu ce phénomène chilien, c'est-à-dire l'autogestion des hôpitaux par urgence, par exemple l'année de la canicule, tu vois. Et dans l'urgence, effectivement, bon, les médecins sont là quand même, mais ils sont trop peu nombreux, donc ce sont les internes qui font le boulot des médecins, les externes font le boulot des internes, hein, les infirmières font le boulot des externes, et les filles de salle font le boulot des infirmières. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, elles savent déjà que c'est normal, quoi, parce que de temps en temps, il y a une infirmière qui dit « tu peux pas me donner un coup de main », etc. Alors cette machine-là, qui fonctionne en France quand il y a une urgence, elle a fonctionné au Chili politiquement, parce qu'il y avait une urgence sociale.
À la fin du mois d'octobre, on était arrivé avec ce système à traiter plus de cas qu'à effectifs complets, avec 30% seulement des effectifs normaux. Mais le résultat le plus important de toute cette organisation, c'était qu'elle mettait en question profondément certains aspects fondamentaux de l'idéologie bourgeoise. La séparation du travail manuel et du travail intellectuel, mythe de la qualification. Dans les hôpitaux abandonnés par les médecins et les infirmières, il avait fallu continuer à soigner. Les aides hospitaliers, voire le personnel de salle non qualifié, ont été amenés à faire le travail. Une quantité de travailleurs qui vivaient et travaillaient dans une ambiance hospitalière depuis longtemps se sont extrêmement rapidement et facilement qualifiés, ou même savaient en fait déjà pratiquer les soins ou assister le médecin ou l'interne pour l'avoir vu faire, pour avoir désiré le faire. Ils ont répondu à la demande avec un enthousiasme politique et une conscience professionnelle aiguisée par les circonstances. Après la grève, quand les infirmiers qualifiés et les médecins de droite sont revenus à l'hôpital, l'ensemble des relations de travail était définitivement bouleversé. La division sociale du travail et le principe des diplômes avaient été balayés par une pratique complètement différente. Ce phénomène a fait basculer toute une partie de ces cadres moyens de la petite bourgeoisie vers la droite, et c'est seulement, si on comprend ce qui s'est passé en octobre, que la fascisation odieuse de la médecine chilienne après le coup d'État, la chasse aux médecins et aux infirmières de gauche, la haine extraordinaire et les dénonciations qui ont sévi dans les hôpitaux devient intelligible. Les hôpitaux avaient cessé aussi, sur d'autres plans, d'être des ghettos d'une science bourgeoise mise au service du peuple par un État abstrait.
Alors ce machin-là, ça laisse des traces ensuite de haine de classe, surtout des classes supérieures qui se rendent compte qu'ils sont finalement sont pas absolument indispensables. Alors tu imagines ce que c'était que ce bouillon de culture, cette expérimentation sociale en route, quoi. C'est quelque chose de très grave. Hein. C'est pour ça que ça laisse des traces dans les mémoires aussi. On peut dire ce qu'on veut, tu vois, c'est comme ça va pas disparaître. Je ne sais pas si on a écrit suffisamment de choses là-dessus, mais à chaque instant, il pourrait ressurgir une thèse de doctorat sur le pouvoir populaire chilien dans les petits coins, etc. Parce qu'il s'est passé des choses intéressantes qui peut-être sont démodées, parce que maintenant, les mouvements de base passeraient par l'Internet. Bon. Mais dans le fond, ça reste toujours des questions sociales et d'identité sociale et de sens du service public, quoi, finalement. Quand le service public se met en grève, c'est le peuple qui devient son propre service public. Ces démonstrations-là ont eu lieu au Chili en masse, quoi.
Yeah.